Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui, le raz-de-marée des nationalistes en Corse.
Oui, raz-de-marée, c'est le terme utilisé par le Figaro en première page. La liste Fémou à Corsica de Gilles Séméoni et Jean-Guy Talamoni a littéralement écrasé ses adversaires pour ce premier tour des élections territoriales, recueillant au total 45,36% des suffrages, note le journal. Au soir du premier tour, poursuit le Figaro, il semble que la messe soit dite, les nationalistes vont prendre les rênes de la grande collectivité régionale issue de la fusion entre les deux conseils départementaux et la collectivité territoriale de Corse. Commentaire du Figaro, la Corse n'est pas la Catalogne sur l'île, l'indépendance n'est plus à l'ordre du jour. À Bastia, Ajaccio ou Corté, le réalisme a triomphé, les séparatistes ont fini par comprendre qu'ils n'avaient pas les moyens de leurs ambitions, contrairement à leurs camarades ibériques. Le virage en tête de la liste nationaliste n'est donc plus un motif d'inquiétude. Une sagesse insulaire commande aujourd'hui de donner la priorité au développement économique, estime encore le Figaro, mais à une condition: le respect des valeurs locales. Pour beaucoup de Corses, l'enjeu consiste donc à réussir la conjugaison des deux à l'intérieur de la République française, vivre à l'heure de la mondialisation, mais sans sacrifier leur âme, leur culture, leur paysage. Il faut reconnaître aux nationalistes, pointe la Charente Libre, le mérite d'avoir préservé l'île de beauté du saccage général des rivages alentour, aussi musclés qu'ait pu être leur moyen d'expression. Entre eux et la classe politique locale, la démocratie a rarement trouvé son compte, tant domine le clientélisme, la violence et la corruption sous toutes ses formes. Les Corses payent cher pour préserver cette identité. En renonçant à l'action armée, la frange la plus radicale des nationalistes a creusé le sillon qui lui entr'ouvre aujourd'hui les portes du pouvoir. Elle pourrait y affronter ses propres contradictions. En tout cas, relève la montagne. Les autonomistes abordent ainsi très confortablement le second tour de dimanche prochain. Ils n'auront pas crié en vain à tous les vents qu'ils n'étaient pas indépendantistes, proposant au peuple corse, rassuré, l'émancipation avec filet de sécurité. Reste que pour ce quatrième scrutin en 2 ans sur l'île de Beauté, les chutes de neige ont fini de décourager le Corse de sortir de chez lui. À l'arrivée, le fort taux d'abstention, en effet un peu plus de 52%, a même de quoi faire taire ceux qui prétendent qu'en Corse on fait voter les morts.
À la une également, Laurent Wauquiez à la conquête du parti LR, les Républicains. C'est dimanche prochain qu'aura lieu le premier tour de scrutin pour la présidence de cette formation. Mais pour la presse, les jeux sont déjà faits. C'est Laurent Wauquiez qui devrait être adoubé.
Oui, et avec lui, plus dur sera la droite, s'exclame Libération en première page. Laurent Wauquiez émerge en se préparant à prendre le contrôle d'un parti jivarisé, pointe Libé. Plutôt que de courir après Macron, il a choisi de concurrencer le Front National en dupliquant presque mot pour mot son discours, tout en jurant ses grands dieux chiraciens qu'il ne fera jamais alliance avec la formation de Marine Le Pen. Agitant la menace du grand remplacement islamique, il tente le petit remplacement du Front National par un « Les Républicains » voué aux thématiques identitaires et sécuritaires. Le chantier de la reconstruction qui s'annonce est complexe, note pour sa part l'Est républicain, et il faudra à Laurent Wauquiez à la fois de l'énergie dont il ne manque pas, et de la nuance dont il manque parfois pour réconcilier ceux qui se sont joyeusement écharpés toute cette année afin de recréer une dynamique, quitte à se radicaliser pour ratisser à droite et froisser encore un peu plus les électeurs tendance social-démocrate qu'il sent lui échapper. Pas sûr, conclut l'Est républicain, pas sûr que la famille LR se réconcilie autour de la table de Noël.
Dans les journaux encore, aux États-Unis, cette fois l'adoption par le Sénat de la réforme fiscale de Donald Trump.
Donald Trump vient d'obtenir son premier grand succès politique à Washington, estime La Croix. Samedi, le Sénat a donc approuvé son projet de réforme réduisant fortement l'impôt sur les sociétés et augmentant la part non imposable des revenus des particuliers. L'objectif, poursuit La Croix, est de stimuler l'économie et de renforcer l'attractivité du pays, y compris en consentant de larges avantages aux plus fortunés. Trump trace sa loi du plus fort, lance pour sa part Libération, élu sur la promesse d'aider les travailleurs américains et la classe moyenne oubliée, quitte à taxer davantage les plus aisés. Donald Trump s'apprête à faire exactement l'inverse, dénonce le journal. Le président américain affirme certes que les cadeaux fiscaux aux plus riches et aux entreprises permettront de générer croissance et emploi, mais peu d'experts partagent son optimisme, pointe Libération sur 38 économistes réputés, interrogés par l'Université de Chicago. Seul un estime que le plan fiscal des Républicains entraînera une croissance économique substantielle.
Enfin, nouvelle pagaille monstre à Montparnasse. Le Parisien s'agace de l'énième panne hier soir à la SNCF qui a laissé sur le carreau des milliers de voyageurs.
Oui, un problème informatique, soupire le Parisien. Voilà ce qui explique, selon la SNCF, l'interruption totale du trafic à la gare Montparnasse qui a provoqué donc en début d'après-midi, vers 13h, une nouvelle pagaille dans cette gare du sud de la capitale, très fréquentée en ce premier dimanche du mois de décembre. La SNCF a mis en place hier des trains supplémentaires vers Nantes, Bordeaux ou encore Rennes au départ de la gare d'Austerlitz, mais le trafic ne devait reprendre normalement que ce matin. Alors, que fait donc l'État actionnaire ? S'insurge l'opinion. De pannes géantes, en trains annulés, de voies fermées, en retards accumulés, la SNCF entre à grande vitesse dans une zone de non-retour sans que son propriétaire, l'État donc, s'en émeuve. Pardon, il a commandé un nouveau rapport sur l'avenir du rail, mais comme si plutôt que d'agir, s'agace encore l'opinion, il fallait un énième diagnostic sur un groupe poussé à la banqueroute par une dette, faut-il le rappeler, de 46 milliards d'euros.
Merci Frédéric Couteau, c'était la revue de presse à retrouver comme chaque jour sur notre site RFI.fr.